Chapitre 2. Un dimanche sur deux, Myriam vidait ses toilettes. Pour ce faire, elle devait sortir la cuve, toujours étonnamment et horriblement lourde, de ses petits WC situés à l'arrière du bateau, traverser la cabine avec son chargement, puis rejoindre le chemin de halage, marcher 100 mètres jusqu'à la station de dépotage et, enfin, vider là ses eaux noires et rincer les derniers restes de la cuve. C'était là un des aspects les moins ragoûtants de la vie en cigare, ces péniches étroites des canaux de Londres, et une corvée dont elle préférait se débarrasser tôt le matin quand il n'y avait personne alentour. Il faut dire que trimballer ses déjections parmi des inconnus, promeneurs de chiens ou autres joggeurs, manquait singulièrement de dignité. Elle se tenait ce jour-là sur le pont arrière pour vérifier que la voie était libre. Pas d'obstacle en vue, ni vélo, ni cadavre de bouteille. Les gens pouvaient se montrer si inciviques, surtout le samedi soir. C'était une matinée ensoleillée, un peu froide pour un mois de mars, mais des bourgeons blancs sur les rameaux lisses des platanes et des bouleaux laissaient entrevoir le printemps. Une matinée un peu froide, et pourtant, Myriam remarqua que les portes de la cabine de la péniche voisine étaient ouvertes, tout comme la veille au soir. Étrange. Mais justement, elle devait aller parler à son jeune occupant. Cela faisait 16 jours qu'il était installé à cet emplacement, 48 heures de plus que le maximum autorisé. Et elle comptait lui demander quand il prévoyait de le libérer. Ce n'était ni son travail ni sa responsabilité, mais Myriam était une des rares à posséder un droit de mouillage permanent, et cela lui conférait un certain sens du devoir vis-à-vis de sa communauté. En tout cas, c'est ce qu'elle expliqua à l'inspecteur Barker quand il lui posa la question « Et pourquoi êtes-vous entré ?» Le policier était assis en face d'elle, les épaules voûtées et le dos arrondi, ses genoux effleurant presque ceux de Myriam. Une péniche n'est pas l'environnement idéal quand on est grand. Et cet homme-là l'était, avec une tête comme une boule de billard et un air renfrogné, un air qui disait qu'il avait d'autres projets pour ce dimanche, emmener ses enfants au parc, par exemple, et qu'il n'était pas ravi de devoir le passer ici avec elle. « Est-ce que vous avez touché quoi que ce soit ?» demanda-t-il. « Touché ?» Myriam ferma les yeux pour réfléchir. Elle se revit toquer sèchement à un carreau du bateau bleu et blanc, attendre une réponse, une voix ou un frémissement de rideau. Puis, quand rien n'était venu, se pencher pour regarder à l'intérieur. Une tentative vaine en raison des voilages et de la quantité de crasse accumulée sur les vitres, 10 ans de pollution. Toquer à nouveau, et après quelques instants, grimper sur le pont arrière. Appeler. « Ouh, il y a quelqu'un ?» Elle se revit attraper la poignée de la porte et aussitôt être assaillie par un effluve, une odeur de fer, de viande, une odeur qui lui avait donné faim. « Il y a quelqu'un ?» Ouvrir la porte en grand, descendre les deux marches qui menaient dans la cabine et s'étrangler sur son dernier « quelqu'un » en découvrant la scène. Le garçon, non, pas un garçon, un jeune homme plutôt, étendu sur le sol, la gorge tranchée d'un large sourire, et du sang partout. Elle se revit vaciller, la main sur la bouche, basculer vers l'avant comme prise d'un violent étourdissement, puis tendre le bras pour se rattraper au comptoir. Oh mon Dieu! J'ai touché le comptoir, dit-elle à l'inspecteur. Je crois que je me suis retenue au comptoir, juste à l'entrée, à gauche quand on entre dans la cabine. Je l'ai vu et j'ai pensé... Enfin, j'ai eu la nausée. Elle rougit. Mais je n'ai pas vomi, du moins pas là. C'est dehors que... Je suis désolée, je...
Ne vous en faites pas, répondit Barker en soutenant son regard. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Vous avez vu le corps, vous vous êtes appuyé sur le comptoir et...
C'était l'odeur qui l'avait frappé, sous celle du sang, tellement de sang. Il y avait autre chose, quelque chose de plus vieux, de douceâtre et d'un peu moisi, comme des lys oubliés trop longtemps dans un vase. L'odeur et lui, impossible de lui résister, avec son beau visage mort, ses yeux vitreux ourlés de longs cils, ses lèvres pleines entr'ouvertes, révélant des dents blanches bien alignées. Son torse, ses mains et ses bras étaient recouverts de sang, et il avait les doigts recourbés, comme pour s'accrocher à quelque chose.
Alors qu'elle tournait les talons, un éclat argenté par terre avait attiré son regard. Un éclat au milieu de cette mare écarlate qui commençait déjà à noircir. Myriam avait remonté tant bien que mal les marches pour quitter la cabine et inspiré de longues goulées d'air entre deux hauts le cœur. Puis elle avait rejoint le chemin de halage et là, elle avait vomi, s'était essuyé la bouche et avait crié
« À l'aide ! Appelez la police !»
Mais c'était un dimanche matin. Il était à peine 7h30 et il n'y avait personne pour l'entendre. Le chemin était désert, même la route un peu plus haut était silencieuse. Pas un bruit, à l'exception du bourdonnement d'un générateur et des cris rauques de quelques poules d'eau. En se tournant vers le pont qui franchissait le canal, Myriam avait alors cru apercevoir quelqu'un, l'espace d'une seconde. Puis plus rien. Et elle était restée seule, paralysée par la peur. « Je suis partie », expliqua Myriam à l'inspecteur. « Je suis sortie du bateau et j'ai appelé la police. Enfin, j'ai vomi, je suis retournée à bord de ma péniche et là, j'ai appelé la police. »
« D'accord, très bien. »
Quand elle leva la tête vers lui, elle vit qu'il examinait attentivement la minuscule cabine proprette dans laquelle il se trouvait, les livres rangés au-dessus de l'évier, une casserole et c'est tout, une nouvelle cuisine pour les légumes, et les herbes sur le rebord de la fenêtre. Basilic et coriandre dans leur bac en plastique et le romarin trop ligneux dans son pot verni bleu. Il jeta un coup d'œil à la bibliothèque remplie de livres de poche, à la fleur de lune qui prenait la poussière au-dessus, au cadre avec la photo d'un couple ordinaire entourant leur enfant enrobé sur une étagère.
« Vous vivez seul ?»
demanda-t-il. Ce n'était pas une vraie question. Myriam devinait sans mal ce qu'il pensait d'elle. Vieille fille, écolo fanatique, le genre à se tricoter des pulls en chanvre quand elle n'est pas occupée à fourrer son nez dans les affaires des autres. Oui, Myriam savait ce qu'on se disait en la voyant.
Est-ce que vous... connaissez-vous vos... voisins? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça d'ailleurs? J'imagine que non, s'il ne reste ici qu'une semaine ou deux.
Il y en a qui vont et viennent régulièrement, répondit Myriam avec un haussement d'épaule. Certains ont leur petite routine, un bout de canal qu'ils aiment sillonner, alors on finit par les connaître, si on en a envie. Mais si on préfère, on peut aussi choisir, comme moi, de rester dans son coin. L'inspecteur ne fit aucun commentaire. Il se contenta de la dévisager, impassible. Elle comprit qu'il essayait de la jauger et qu'il prenait ce qu'elle lui confiait avec réserve.
Et lui? L'homme que vous avez découvert ce matin?
Myriam secoua la tête.
Je ne le connaissais pas. Il nous est arrivé de nous croiser, d'échanger des... je ne dirais même pas des banalités d'ailleurs. Bonjour, bonsoir, c'est tout.
Pas exactement. Il était vrai qu'elle ne l'avait vu que deux ou trois fois depuis son amarrage. D'ailleurs, elle avait tout de suite compris qu'elle avait affaire à un amateur, avec sa péniche délabrée à la peinture écaillée, au linteau rouillé et à la cheminée de travers. Quant à l'occupant, il semblait beaucoup trop propre sur lui pour la vie de canal. Vêtements impeccables, dents blanches, aucun piercing ni tatouage. Aucun de visible, du moins. C'était un très beau jeune homme, très grand, avec des cheveux bruns, des yeux noirs et un visage tout en ligne et en angle. La première fois qu'elle l'avait vu, elle lui avait dit bonjour et il avait levé la tête pour lui sourire. Les petits cheveux sur la nuque de Myriam s'étaient aussitôt redressés.
Cela l'avait marqué, mais elle ne comptait pas en parler à l'inspecteur. La première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Il la prendrait pour une folle.
De toute façon, elle comprenait maintenant ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Ce n'était pas une prémonition ou une autre absurdité de ce genre, non. C'était l'inspiration. Il y avait là une opportunité. C'était ce qu'elle avait songé quand elle avait appris l'identité du garçon. Mais elle n'avait pas trouvé le moyen d'en tirer profit jusque-là. À présent qu'il était mort, cependant, elle avait l'impression que c'était le destin. En fin de compte, elle était là, sa chance.
« Madame Lewis ?» l'interpella l'inspecteur Barker. Il venait de lui poser une question.
« Mademoiselle » rectifia-t-elle, et l'inspecteur ferma les yeux un instant.
« Mademoiselle Lewis, est-ce que vous vous souvenez l'avoir vue avec quelqu'un ? Discuter avec quelqu'un, par exemple ? Elle hésita, puis hocha la tête. Il a reçu de la visite 2 ou 3 fois, je dirais. Il est possible qu'il y ait eu plusieurs personnes, mais je n'en ai vu qu'une. Une femme plus âgée que lui, d'environ mon âge, peut-être la 50aine. Des cheveux argentés coupés très courts. Une femme mince, assez grande, environ 1,75 m ou 1,80 m, les traits anguleux.
Barker leva un sourcil. Vous avez eu le temps de bien la voir alors, cette femme.
Il faut croire, soupira Myriam avec un nouveau haussement d'épaules. Je suis d'une nature observatrice. J'aime bien garder un œil sur ce qui se passe.
Autant jouer sur ses a priori.
Mais même sans ça, c'est le genre de femme qu'on remarque, ajouta-t-elle. Elle attirait l'œil. Entre sa coupe de cheveux et ses vêtements, elle respirait l'opulence.
L'inspecteur s'était remis à hocher la tête en notant ses paroles, et Myriam fut certaine qu'il ne lui faudrait pas longtemps pour identifier la personne dont elle parlait.
Après le départ de l'inspecteur, les policiers bouclèrent les accès au chemin de halage entre De Beauvoir Road et Shepperton Road et ordonnèrent à tous les bateaux de quitter les lieux hormis celui de la victime et celui de Myriam. Ils essayèrent bien de la convaincre d'aller au moins s'installer ailleurs, mais elle ne se laissa pas faire. Est-ce qu'ils comptaient la reloger, étant donné qu'elle n'avait nulle part où aller?
Le policier en uniforme à qui elle posa la question, un gamin boutonneux à la voix trop aiguë, sembla agacé de la voir ainsi se décharger de cette responsabilité sur lui. Il regarda le ciel, le canal, puis examina le chemin à droite et à gauche, avant de reporter son attention sur elle, cette petite bonne femme enrobée et inoffensive. Il céda. Après avoir parlé à quelqu'un par radio, il revint lui annoncer qu'elle pouvait rester.
« Vous pouvez aller de l'accès jusqu'à votre lieu de résidence, mais pas plus loin. »
Cet après-midi-là, Myriam s'assit sur le pont arrière de sa péniche sous un soleil blafard pour profiter du calme inhabituel du canal privatisé. Enroulée dans une couverture, une tasse de thé à côté d'elle, elle observa le manège des policiers et des enquêteurs avec leurs bateaux et leurs chiens, qui passaient au peigne fin le chemin de halage et sondaient les eaux boueuses.
Myriam se sentit étrangement apaisée, en dépit de la journée qu'elle venait de passer. Optimiste presque. De nouvelles portes s'ouvraient devant elle. Dans la poche de son gilet, ses doigts se refermèrent sur la petite clé encore collante de sang, celle qu'elle avait trouvée sur le sol du bateau, celle dont elle avait choisi de cacher l'existence à l'inspecteur, sans même savoir pourquoi. L'instinct ? Quand elle l'avait vue briller près du corps du garçon, accrochée à un porte-clés en forme d'oiseau, elle l'avait tout de suite reconnue. Elle l'avait remarqué un jour à la ceinture du jean de Laura, la fille de la laverie. Laura la folle, comme on l'appelait. Mais Myriam l'avait toujours trouvée sympathique et pas folle pour un sou. Laura, que Myriam avait aperçue arrivant sur le chemin au bras de ce beau garçon pour le suivre sur son bateau. Ivre probablement. C'était il y avait quoi, 2 nuits, 3? Myriam pouvait le retrouver dans son carnet, où elle notait justement ce genre d'observation. Au crépuscule, Myriam vit les agents sortir le corps de la péniche et monter les marches jusqu'à la rue pour rejoindre une ambulance. Lorsqu'ils passèrent devant elle, Myriam se leva et, en signe de respect, elle baissa la tête et murmura un « Que Dieu te garde », peu convaincue. Elle murmura aussi « Merci ». Car en venant s'amarrer à côté de chez elle et en se faisant assassiner ainsi, Daniel Sutherland venait d'offrir à Myriam une opportunité qu'elle ne comptait pas laisser filer. Une chance de se venger des torts qu'on lui avait causés. À présent, seule et, elle devait bien le reconnaître, un peu nerveuse dans l'étrange silence nocturne qui avait suivi le départ des policiers, elle rentra dans sa cabine, tira le verrou et cadenassa la porte. Elle sortit la clé de Laura de sa poche et la rangea dans la petite boîte en bois sur l'étagère du haut de la bibliothèque. Jeudi, c'était le jour des lessives. Elle la rendrait peut-être à Laura à ce moment-là. Ou pas. Qui sait ? Elle pourrait peut-être s'avérer utile un jour.